même qui ne pourra pas lancer de nouveaux produits pendant 6 mois. Sébastien Farcy, New Delhi. RFI.
Et de retour à Paris, les 9h10 dans 30 secondes. Appel sur l'actualité avec vous, Ron Gomez.
Et avec les auditeurs de RFI. Merci, Julien Coquelroem.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous allons vous présenter aujourd'hui des extraits de Semi. Ce livre, après Souzouran, fait partie du nouveau cycle romanesque d'Aki Shimazaki, habitué des pentalogies. Le poids des secrets, au cœur de Yamato, l'ombre du chardon, toutes publiées chez Actes Sud. Cet auteur, né au Japon en 1954, vit à Montréal depuis 1991. Elle écrit en français. Tetsuo et Fujiko Nire ont intégré une maison de retraite depuis 6 ans, après que Fujiko a débuté la maladie d'Alzheimer. Tout va bien jusqu'au jour où Fujiko ne reconnaît plus Tetsuo comme son époux.
Caches-tu ? Après tant d'années sous terre, tu n'as que quelques semaines à l'air. As-tu de la nostalgie pour ton long passé dans le noir ?
Je me réveille au gazouillis des moineaux. Un instant, je me demande où je suis. Dans notre maison ? Je jette un coup d'œil vers la fenêtre entrouverte. Aussitôt, je reconnais notre chambre à la résidence d'aîné. Le lit de Fujiko est vide. La couverture d'été et le drap sont froissés. L'oreiller et le coussin ne sont pas rangés. Elle doit être aux toilettes. L'horloge murale indique 7h05. Je m'étonne. Normalement, ma femme ne se réveille pas avant 8h. Profitant de la fraîcheur du matin, nous ferons un tour avant notre petit déjeuner. Allongée sur le lit, j'observe les meubles à portée de notre maison. Un canapé, un fauteuil, la table ronde, des chaises, mon bureau, la coiffeuse de Fujiko, etc. Ils sont vieux mais de bonne qualité. Quant à nos lits, nous les avons achetés lors de notre emménagement. C'était l'idée de Fujiko d'avoir 2 lits simples plutôt qu'un lit double. Dans un coin, il y a un évier et 2 placards. Nous avons installé un petit réfrigérateur, un micro-ondes et une bouilloire électrique. Nous prenons nos repas à la salle à manger de la résidence. La nourriture y est équilibrée et délicieuse. Il est rare que nous allions au restaurant. Nous avons notre propre salle de bain. Bref, nous vivons presque comme dans une suite d'hôtels. Cela fait 6 ans que nous habitons ici. Cet établissement a pour devise « Soins à vie avec respect ». Bien qu'il soit privé, il ne coûte pas trop cher et nos pensions suffisent. Le personnel est excellent. Il y a des activités culturelles et sportives. L'ambiance est très agréable. La liste d'attente est évidemment longue. Très satisfait, nous n'avons jamais pensé déménager ailleurs. Mon épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle ne reconnaît plus nos petits-enfants et confond notre fille cadette, Anzu, avec son aînée, Kyoko, morte d'un cancer il y a 5 ans. Heureusement, elle me reconnaît encore bien et continue de m'appeler mon chéri. Elle ne rencontre pas de difficultés dans les actions quotidiennes, telles que manger, aller aux toilettes, prendre son bain. Je peux avoir des conversations simples et familières avec elle. À vrai dire, nous avons souhaité habiter le plus longtemps possible notre maison où nos enfants ont grandi. Lorsque notre fils Nobuki s'est marié, il y a 10 ans, nous nous attendions à ce que lui et sa femme emménagent chez nous, comme nous l'avions fait avec mes parents. Dans ce cas, Nobuki aurait hérité de la maison. Cependant, le jeune couple a loué un appartement, puis acheté une maison en banlieue. Voilà la nouvelle génération. Nous avons été très déçus. Surtout Fujiko, qui avait hâte de s'occuper de nos petits-enfants comme l'avait fait ma mère. Par contre, Nobuki n'a pas ménagé sa peine pour trouver cette résidence, dès que sa mère a eu de légers symptômes de démence. Quand il nous a amenés ici pour nous montrer les lieux, nous avons été impressionnés par le personnel, expérimenté et respectueux. Nous avons décidé d'y vivre, bien que nous regrettions de quitter notre maison. 2 ans après notre déménagement, Anzu et son époux ont acheté notre ancienne demeure. C'est son 2e mariage et elle a un fils de son premier. En fait, son mari actuel était le fiancé de Kyoko. Celle-ci est décédée peu après avoir accouché d'une fille. Anzu a adopté le bébé lors de son mariage. Sa famille comprend donc 4 personnes. Le couple aime beaucoup cette maison. Mes enfants nous rendent visite régulièrement. Parfois, Anzu sort se promener avec sa mère pour me laisser des moments libres. Nobuki organise des fêtes chez lui où nous rencontrons nos 4 petits-enfants. C'est bien ainsi après tout. Nous ne sommes une charge pour personne. Une brise pénètre par la fenêtre. C'est un kumazemi. D'après ma femme, cette cigale crie dans la matinée seulement. Je ne connais pas grand-chose à ces insectes, mais elle retrouve le nom de chaque espèce en entendant son chant. Il est remarquable qu'elle se rappelle de 6 petits détails appris dans son enfance. Il est 7h20. Fujiko est encore aux toilettes ? Je descends de mon lit lentement et m'approche de la salle de bain. Je frappe à la porte.
Fujiko, tout va bien ?
Pas de réponse. Je pousse doucement la porte qui s'ouvre, n'étant pas verrouillée de l'intérieur. Elle n'est pas là. Je reviens vers son lit et constate que sa chemise de nuit n'est pas à sa place habituelle, ni le châle d'été qu'elle porte quand le climatiseur est en marche. Est-elle sur le balcon ? Je vais à la baie vitrée coulissante et tire les rideaux. Elle n'est pas là non plus. Je regarde la console près de la porte d'entrée. Il n'y a rien dessus. Quand elle sort, elle est censée y déposer une des cartes plastifiées indiquant où elle se trouve. Je suis au salon, je suis à la salle de loisirs ou je suis dans le jardin. Son panier à ouvrage en osier qu'elle traîne toujours avec elle et sur sa coiffeuse. Où est-elle ? Soudain, le mot fugue me traverse l'esprit. Je m'écrie.
Pas possible !
Je me change précipitamment et je sors.
Bonjour, monsieur Niret.
Dans le couloir, je croise monsieur et madame B, de nouveaux résidents logés au même étage que nous. La dame marche avec une canne et elle a une mauvaise vue. Nous nous saluons amicalement. Le mari me demande.
Nous venons de prendre le petit déjeuner. C'était délicieux comme d'habitude. Avez-vous pris le vôtre ? Non, pas encore. D'abord, je dois retrouver ma femme. Madame Niret ? Moi, je l'ai vue tout à l'heure, au rez-de-chaussée.
Le couple est au courant de sa maladie. Rassurée, je pense que Fujiko a simplement oublié de me laisser la carte de destination. Monsieur B ajoute.
Elle parlait avec un employé devant le bureau du personnel. Ah bon ?
Madame B lève la tête vers moi. Ses yeux sont cachés par des lunettes noires. Elle me sourit.
J'ai appris que votre petite fille va chanter en solo cet après-midi. Nous irons l'écouter sans faute.
C'est gentil.
Il s'agit d'un mini-concert que la résidence organise un dimanche par mois dans la salle de spectacle. Notre petite fille, Suzuko, y a déjà participé l'année dernière. Elle était adorable. Sa présentation avait réjoui tout le monde. C'est l'enfant de notre aîné décédé. J'annonce fièrement au couple.
Aujourd'hui, elle chantera des Natsumero.
Mon voisin s'exclame.
Ah, c'est une excellente idée. Les vieilles mélodies japonaises remueront la partie endormie de notre mémoire. Absolument. C'est l'effet que j'espère sur ma femme. Monsieur Niré, nous aimons beaucoup la musique, surtout classique. Bach, Mozart, Chopin.
Il enchaîne de bonne humeur. Je guette le retour de Fujiko, mais elle n'apparaît pas. Je quitte le couple. En me dirigeant vers les ascenseurs, je me demande ce qu'elle pouvait bien raconter à l'employé. Lorsque j'arrive au bureau du personnel au rez-de-chaussée, un jeune employé me salue.
Bonjour, monsieur Niré. Vous cherchez votre femme ? Oui. Vous savez où elle est ? Elle est en train de prendre son petit déjeuner.
Je m'étonne.
Sans moi ? Y l'accompagne. Ne vous inquiétez pas.
Y est l'infirmière attachée à la résidence. Elle a la quarantaine. Intelligente, sage, sympathique, elle est respectée par tout le monde. Fujiko a une confiance absolue en elle.
Alors je vais les rejoindre dans la salle à manger. Non, monsieur Niré, restez plutôt ici. Y viendra vous parler. Et pourquoi ? Elle vous expliquera.
L'employé m'invite à m'asseoir sur un canapé le long du mur, puis il sort du bureau. Qu'est-ce qui se passe ? Je ramasse le journal du jour laissé sur une table basse. Je tente de lire un article politique, mais ne peux pas en saisir le sens. 10 minutes passent. L'infirmière arrive enfin. Elle me lance une salutation matinale avec un grand sourire. Cela me rassure, mais je lui demande...
Y a-t-il un problème ?
Madame Niré va bien. Pourriez-vous venir avec moi dans la salle de réunion d'à côté ?
Sans attendre ma réponse, il ressort du bureau. Décontenancée, je la suis. Nous nous installons à la grande table ronde. Elle prend la parole calmement.
Votre femme est sortie sans vous prévenir, n'est-ce pas ?
Oui, j'avais peur qu'elle ne commence à fuguer.
Non, ce n'est pas le cas.
Soulagée, je l'interroge.
Elle est fâchée contre moi ?
Non, pas du tout.
Alors, qu'y a-t-il ?
Il se tait un moment et relate.
À son réveil, Madame Niré a été choquée de vous trouver couchée dans sa chambre.
Stupéfait, je m'écrie.
Quoi ? Fujiko ne m'a pas reconnue ?
Non. Elle est aussitôt descendue me chercher au bureau et m'a annoncé. Mon Dieu, un homme inconnu dort dans l'autre lit.
Ma voix tremble.
A-t-elle perdu à ce point sa lucidité ?
Ça en a l'air, en tout cas pour le moment.
Néanmoins, elle se souvient de vous ?
Oui, je grommelle.
Bon, c'est vexant.
L'infirmière me réconforte.
Voyez le bon côté des choses, monsieur Niré. Votre femme a été capable de se rendre seule au bureau pour m'avertir de cette anomalie dans sa chambre.
Le mot « anomalie » me fait rire.
Que lui avez-vous répondu ?
Naturellement, je lui ai dit « c'est votre mari ». Elle a nié sur le champ. C'est impossible, je ne suis pas mariée.
Je reste bouche bée, y enchaîne.
Je ne l'ai pas contredite. Ah, c'est vrai que vous êtes encore célibataire. Cet homme est votre futur mari. Il s'appelle Tetsuo Niré.
Et comment a-t-elle réagi ?
Elle m'a interrogée. C'est ce monsieur que j'ai rencontré par miaï, un mariage arrangé ? J'ai donc affirmé. Oui, c'est bien cela, il est votre fiancé. Elle s'est enfin calmée.
Je commente ironiquement.
C'est gentil de sa part de m'accepter comme son futur mari.
Y ajoute.
Son état de confusion peut évoluer d'un jour à l'autre, mais il faut l'écouter avec patience et ne pas la contrarier.
Je soupire.
Je ne pense pas être capable de devenir un bon acteur.
Essayez, monsieur Niré. Dire la vérité est nuisible dans ces cas-là.
Je reste silencieux. Il reprend.
Le problème est que, n'étant pas encore mariée, elle ne s'attend pas à dormir dans la même pièce que vous. Elle insiste pour avoir sa propre chambre.
Je regarde l'infirmière avec stupeur.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vais-je devoir louer une autre suite pour moi ?
Pas nécessairement. De toute façon, ce n'est pas possible. Toutes nos chambres sont occupées et la liste d'attente est longue.
Que dois-je faire alors ?
Il me répond d'un ton assuré.
C'est simple. Je suggère pour le moment de séparer vos deux lits avec des paravents. J'en ai parlé à votre femme tout à l'heure et l'idée lui convenait.
Des paravents entre nos lits ?
Oui, on l'a déjà fait avec un autre couple et cela avait bien fonctionné.
Oh, c'est inouï.
Je me tais. Après un moment de silence, l'infirmière ajoute.
À propos, votre fiancée m'a corrigée. Je ne suis pas Madame Niré. Mon nom est Fujiko Kajiyama. Donc je l'appelle maintenant Fujiko-san ou Kajiyama-san.
Je murmure.
Elle se souvient de son nom de jeune fille.
Énervée, je n'ai plus faim. Je me passe de petit déjeuner et sors pour me calmer. Je flâne dans les rues. À présent, I et ses aides installent des paravents entre nos lits. Fujiko est censée les diriger. Je n'ai pas encore parlé avec elle. Tout à l'heure, l'infirmière a répété pour apaiser mon anxiété.
Monsieur Niré, vous avez de la chance. Pour votre femme, vous n'êtes pas un inconnu. Au contraire, vous êtes son fiancé. C'est romantique.
Quel optimisme. Elle m'a même taquiné joyeusement.
Un jour, nous célébrerons vos noces.
Je n'avais pas envie de rire. En marchant, je murmure.
Fujiko-san. Fujiko-san.
Avant notre mariage, on se vouvoyait en s'appelant Fujiko-san et Tetsuo-san. Après, naturellement, nous sommes passés au tutoiement. Je l'appelais Fujiko et elle, mon chéri. Ensuite, dès la naissance de notre aîné, Fujiko et mon chéri sont devenus maman et papa. Et nous voici revenus à l'époque de nos fiançailles. Je me sens très gênée à l'idée de la vouvoyer à nouveau. Le soleil frappe fort. J'ai oublié mon chapeau. J'entre dans le parc où nous avons nos habitudes. C'est là que nous passons tranquillement nos après-midi, moi lisant et elle crochetant. Je m'assieds sur un banc à l'ombre d'un grand orme. Devant moi, il y a un étang avec une fontaine. Une cigale chante au-dessus, très différemment de celle de ce matin. C'est un ninizemi. C'est encore Fujiko qui m'a appris ce nom. Deux canards nagent côte à côte. En les observant, je songe à l'époque où les premiers signes d'Alzheimer sont apparus chez Fujiko. Troublée, elle m'avait un jour demandé
« Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?»
3 ans avant ma retraite, alors que mes parents étaient déjà décédés, Nobuki a terminé ses études et déménagé dans un appartement. Fujiko et moi, nous nous sommes retrouvés seuls à la maison. C'est à cette époque-là qu'elle a commencé à oublier des choses. Cela a progressé lentement, mais sans causer trop de dérangements au quotidien. Puis, après son 70e anniversaire, la situation a brusquement empiré. Je devais la surveiller sans cesse, surtout quand elle faisait la cuisine. Elle laissait souvent le gaz ouvert. Poussés par Nobuki, nous avons finalement emménagé dans cette résidence. L'année suivante, Kyoko est morte. Après cette tragédie, l'état de Fujiko s'est rapidement détérioré. D'abord, elle a commencé à ne plus reconnaître nos amis et nos voisins, puis nos petits-enfants. Enfin, elle s'est mise à confondre Anzu avec son aîné. J'étais préparée à ce qu'un jour Fujiko ne me reconnaisse plus, mais je n'imaginais pas redevenir son fiancé. A-t-elle vraiment perdu tout souvenir de notre mariage ? Les deux canards évoluent toujours ensemble. En les contemplant, je remonte plus loin dans le passé. J'habitais chez mes parents. Un jour, ils m'ont apporté une photo d'une jeune femme nommée Fujiko Kajiyama. C'était un miyai proposé par un couple que je connaissais bien. Elle avait mon âge, 27 ans. Sur la photo, elle me semblait douce et sympathique. Elle était originaire de la préfecture de Shizuoka. Après le lycée, elle était venue ici, à Yonago, et travaillait comme préposé dans une bibliothèque. Ses passe-temps favoris étaient lire et tricoter. Elle était douée en soroban, bouillé, japonais, et en calcul mental. C'est une personne honnête et fiable, me répétait le couple. Fujiko Kajiyama avait été informée que j'étais enfant unique et que ma future femme et moi vivrions avec mes parents. J'ai accepté de la rencontrer. Au premier coup d'œil, j'ai eu l'intuition qu'elle deviendrait une bonne mère. Le lendemain, j'ai donné une réponse affirmative au couple et peu après, j'ai reçu la sienne. Notre vie conjugale a débuté agréablement. Fujiko s'entendait bien avec mes parents. Bientôt, elle est tombée enceinte et tout le monde était joyeux. Hélas, elle a fait une fausse couche, puis une deuxième l'année suivante. Cela l'a énormément attristée et elle a presque perdu espoir. Heureusement, 5 ans après notre mariage, elle a enfin accouché de notre premier enfant, Kyoko. 2 ans plus tard, est née Anzu, puis, après encore 5 ans, Nobuki. Le couple de canards monte sur le gazon. La femelle se lave énergiquement et le mâle observe alentour. La cigale stridule continuellement. Les yeux fermés, je l'écoute quelques instants. Nous avons vécu ensemble pendant presque un demi-siècle sans crise conjugale, ni familiale. Nous avons partagé la joie d'élever les enfants, mais aussi les chagrins des fausses couches et de la mort de notre aîné. En s'occupant de nos enfants, Fujiko restait en bonne harmonie avec mes parents. Son dévouement pour la famille fut en effet exemplaire. Maintenant qu'elle est malade, c'est mon tour de prendre soin d'elle. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours ma femme. Je dois la protéger, elle qui m'a été fidèle et le sera aussi à son futur mari. Les deux canards flânent ensemble sur le gazon et s'éloignent. Je consulte ma montre. Il est 11h40. Mon agitation s'est bien calmée. Je me lève et me dirige vers la résidence. J'espère que ma fiancée acceptera de prendre le déjeuner avec moi. En marchant, je m'entraîne.
Fujiko-san, Fujiko-san, Fujiko-san.
Je passe au bureau du personnel. L'infirmière y me salue.
Monsieur Nire, votre fiancé vous attend dans le salon.
Merci, madame. Les paravents ont-ils été installés?
Oui, elle est satisfaite de cet arrangement.
Oh, excusez-nous pour ce dérangement.
Vous ne nous dérangez pas. C'est notre plaisir de veiller à ce que chaque résident se sente bien ici.
Dans ma tête, je remercie à nouveau Nobuki qui a découvert cet endroit après de longues recherches. Il me sourit.
Alors, êtes-vous prêt à l'appeler Fujiko-san ?
Oui, madame.
Réponds-je comme un écolier à sa maîtresse. Nous parlons de ma petite fille qui va chanter cet après-midi. Elle arrivera avec ses parents et la directrice de sa maternelle qui l'accompagnera au piano. L'infirmière me conseille de leur expliquer notre nouvelle situation avant qu'ils ne rencontrent Fujiko. Je téléphone tout de suite à Anzu qui me taquine.
Alors, maintenant vous êtes fiancée? C'est romantique, papa. J'espère que devant Fujiko-san, nous tiendrons bien notre rôle.
J'entre dans le salon. Il n'y a que Fujiko installée dans un fauteuil. La tête baissée, elle crochette. Que va-t-elle fabriquer avec ses carrés? Je lui lance d'un ton encourageant.
Vous devez avoir faim. Allons manger.
Nous entrons dans la salle à manger. Je choisis une table à l'écart et invite Fujiko. Puis je vais chercher nos plateaux. Aujourd'hui, c'est du saumon grillé.
C'est mon préféré. Merci, Tetsuo-san.
En mangeant, elle parle des légumes que ses parents cultivent dans son village. Ceux-ci sont morts pourtant il y a longtemps. Je l'écoute sans l'interrompre. L'infirmière nous aperçoit et me lance un V avec ses doigts. Je lis sur ses lèvres.
Bravo, monsieur Nire.
Malgré ma gêne, je me sens fière comme un enfant. Notre repas terminé, il reste encore un peu de temps avant le spectacle musical auquel participe notre petite fille.
Fujiko-san, cet après-midi, il y a une activité musicale.
Y a-t-il quelque chose de spécial ?
Oui, une fille de 5 ans va chanter. Elle s'appelle Suzuko Nire. Elle présentera de vieilles chansons de l'ère Showa.
Ses yeux s'écarquillent.
L'ère Showa ? Mais c'est maintenant. Vous êtes drôle, Tetsuo-san.
Ahurie, je me tais. Je comprends que désormais, elle ne vit plus à l'ère Reiwa, qui vient de commencer, ni même à l'ère Eizi. Je me corrige.
C'est-à-dire des chansons qui étaient en vogue juste après la guerre.
Je comprends mieux.
Ces chansons vous plaisent ?
Oui. Quand j'étais petite, ma mère fredonnait la cordillère bleue.
Malgré moi, je lui demande.
Vos parents sont-ils toujours en vie ?
Elle me répète.
Vous êtes drôle, Tetsuo-san. Vous venez de les rencontrer lors de notre miyai.
Je m'excuse de ma distraction. Cela la rassure, je me lève.
Le spectacle commence bientôt. On y va ?
Elle hoche la tête et range ses affaires dans son panier à ouvrage. Min, 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 min. Les cigales crient sans arrêt. Fujiko marche en balançant sa vieille ombrelle. Elle chantonne.
Semi, 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 où te caches-tu ? Après tant d'années sous terre, tu n'as que quelques semaines à l'air. As-tu de la nostalgie pour ton long passé dans le noir ?
Dans la salle de spectacle. Les chaises sont presque toutes prises. Il y a une centaine de spectateurs, des résidents, leurs familles, des employés. J'aperçois nos voisins d'étage, monsieur et madame B, assis à l'extrémité gauche du premier rang. De l'autre côté, à droite, se trouvent Anzu et son mari. Ils nous ont remarqués et désignent de la main deux places derrière eux. Lorsque nous y arrivons, ma fille salue sa mère.
Bonjour Fujiko-san, comment allez-vous ?
Ma femme lui répond comme à une amie.
Bonjour madame, je vais très bien, merci.
Je bavarde avec notre beau-fils, directeur d'une succursale de la compagnie pharmaceutique T. Il vient de visiter le siège social à Nagoya. Fujiko nous regarde en silence. Je suis sûre qu'elle ne comprend pas notre conversation. Néanmoins, quand son gendre lui sourit, elle sourit aussi, comme si elle le connaissait bien. L'animatrice monte sur l'estrade et la salle devient tranquille. Elle nous adresse au microphone des mots de bienvenue, puis le directeur de la résidence fait de même. Enfin, le spectacle débute. D'abord apparaît notre petite fille Suzuko, suivie de la directrice de sa maternelle qui l'accompagnera au piano. Celle-ci est une amie d'Anzu. Suzuko est adorable. Aujourd'hui, elle porte une robe tablier bleu clair, sans manches. Ses cheveux sont tirés en queue de cheval. Bien qu'elle ait la candeur de son âge, on peut imaginer que c'est une enfant enjouée et brillante comme l'était sa défunte mère. Mon cœur tressaille. Je regarde Fujiko, mais elle ne manifeste aucune émotion particulière. On annonce les titres. La chanson de la pomme, le chapeau pointu et d'où vient le matin. Toutes sont familières à notre génération. Le piano commence, Suzuko entonne en articulant avec vivacité. Les spectateurs âgés rythment les mélodies avec leur tête. Devant moi, une dame essuie des larmes. Je suis vraiment fière de notre petite fille. À la fin, tout le monde applaudit. Bravo, magnifique ! Suzuko s'incline. Très excitée, je tourne la tête vers Fujiko qui demeure toujours sans expression. L'animatrice revient au microphone et déclare
« Maintenant, je vous présente nos invités suivants. Une belle surprise !»
Je me demande de qui il s'agit. Elle les appelle.
Monsieur et Madame B.
Quoi ? Sont-ils musiciens ? Je ne savais pas. Ce matin, lorsque j'ai croisé ce couple d'octogénaires dans le corridor, ils n'ont pas mentionné leur participation. La dame m'a seulement dit qu'elle avait hâte d'écouter ma petite fille. Aidée par la femme du directeur, Madame B monte lentement sur l'estrade, un violon à la main. Son mari se dirige vers le piano, étale ses partitions et s'assied sur le banc. Je chuchote à Fujiko.
Ce sont nos nouveaux voisins.
Elle considère le couple sans un mot. Après une pause, Monsieur B enfonce une note sur le clavier et son épouse accorde son instrument. Quand le couple est prêt, l'animatrice nous annonce les titres des pièces.
Premièrement, Chopin, nocturne numéro 20 en do dièse mineur. Deuxièmement, Dvorak, humoresque numéro 7 en sol majeur.
Monsieur B se met à jouer, un air lent et triste. La tête un peu penchée, sa femme l'écoute. On ne voit pas ses yeux à cause de ses lunettes noires. Bientôt, son violon se joint au piano. Sa tonalité est très délicate. Un silence total règne dans la salle. Le couple n'est pas professionnel. Pourtant, leur harmonie me saisit complètement. Je tourne la tête vers Fujiko. Je suis sidérée. Ses joues sont mouillées. Elle pleure. Son regard est rivé sur Madame B. Je lui tends mon mouchoir, mais elle ignore mon geste. Comme moi, elle n'est pas particulièrement amatrice de musique classique. Sa réaction est vraiment imprévue. Le nocturne de Chopin finit sur une longue note très douce au violon. Les spectateurs écoutent de toutes leurs oreilles jusqu'à la fin. Ensuite, sans attendre les applaudissements, le couple entame humoresque. Ils jouent toujours en harmonie. Cette fois, la salle baigne dans l'enchantement. Même moi, qui ne suis pas sensible à la musique, ai envie de danser. Quand ils achèvent, le public pousse des acclamations. « Bravo, bravo !» Monsieur et Madame B s'inclinent profondément. Je regarde le visage de Fujiko. Il n'a plus de larmes. Après le mini-concert, Anzu propose à sa mère.
« Fujiko-san, allons-nous baigner à la plage ?»
Ma femme accepte promptement.
« Avec plaisir, madame. »
Mon gendre accompagne sa belle-mère à la voiture. Suzuko fredonne le chapeau pointu qu'elle vient de chanter au spectacle. La voiture s'éloigne. J'agite la main vers Fujiko qui me répond de même. Étant libre, je sors dans l'idée d'acheter un CD du Nocturne de Chopin. Fujiko devrait être contente de l'écouter à nouveau. J'entre chez un disquaire et indique le titre à un vendeur. Il en existe plusieurs versions enregistrées au piano, mais toutes sans violon. Puisque je ne connais guère les pianistes étrangers ou japonais, je prends celui que le vendeur me recommande. Je flâne dans une librairie et achète un journal et un livre sur l'économie, puis je me promène quelques minutes dans la rue commerçante. La chaleur est encore étouffante. J'entre dans un café et commande un jus d'orange.
Bonjour, monsieur Niret.
Je lève les yeux. Monsieur B est debout devant moi. Étonné, je le salue. Il plaisante.
Nous sommes tous les deux célibataires.
Je l'invite à s'asseoir. Il accepte volontiers et commande la même chose que moi. Je le félicite pour son magnifique duo avec sa femme. Il me remercie sans oublier de faire l'éloge de ma petite fille qui a si joliment chanté des Natsumero. Nous bavardons amicalement.
Je ne savais pas que vous jouiez tous les deux de la musique. Et où pratiquez-vous ? Chez notre fils. Jouer en public n'est pas dans nos habitudes, mais le directeur de la résidence nous a convaincus. En fait, c'est un ami de notre fils.
Je lui répète mon compliment.
C'était une très belle surprise. La salle était totalement subjuguée. Merci, monsieur Niret.
Je renchéris.
Ma femme pleurait. C'est vrai, je vais le dire à la mienne.
La serveuse apporte son jus d'orange. Je sors de mon sac le CD acheté tout à l'heure et le pose sur la table. Monsieur B s'exclame.
« C'est le nocturne de Chopin que nous avons interprété. » « Exactement. »
Réjoui, il me raconte son histoire. Il pratique le piano depuis son enfance et Madame B le violon depuis le collège. Lorsqu'ils étaient lycéens, ils se sont rencontrés dans un club de musique. Après, ils ont essayé un duo de Mozart et se sont très bien entendus. En l'écoutant, je me rends compte que Fujiko et moi n'avons pas beaucoup d'activités en commun. J'interroge mon voisin.
Travailliez-vous dans un domaine lié à la musique ? Non, pas du tout. J'étais mécanicien automobile.
Son métier me surprend. Il m'apprend qu'il était à son compte et que sa femme s'occupait de la gestion. Ils avaient plusieurs employés. Le couple a vendu leur garage voilà 10 ans.
Quelle était votre profession, monsieur Niré ? J'ai travaillé pour la compagnie M, comme ingénieur en mécanique automobile.
Monsieur B sourit.
Ah, nous avons quelque chose en commun.
Il parle de sa famille. À part son fils, il a 2 filles et maintenant 7 petits-enfants.
En gérant un garage et en élevant 3 enfants, aviez-vous le temps de pratiquer ? Oh, pas beaucoup, mais au moins une fois par semaine, serait-ce que 15 minutes.
De nouveau, je pense à mon rapport avec Fujiko. Depuis que nous vivons seuls, qu'avons-nous fait pour nous amuser ensemble ? Mon voisin revient sur le sujet de la musique.
Monsieur Niré, connaissez-vous l'émission de télé Classique avec vous ?
Je secoue la tête. Il précise que cette émission est diffusée tous les dimanches soirs à 8h et que chaque fois, un musicien est invité à commenter plusieurs pièces. Il me la recommande fortement.
Votre femme l'aimera sûrement. Je vais alors la regarder avec elle. Et quel sera l'invité ce soir ? Ce sera Ray Miva, chef d'orchestre, octogénaire, mais très actif.
Le visage de ce musicien âgé m'est familier. C'est un bel homme. Monsieur B continue à parler de lui avec enthousiasme. Ray Miva est aussi compositeur. Récemment, on l'a vu à la télé dirigeant la symphonie inachevée de Schubert. Son interprétation était sublime. Je l'interromps.
Il est beau et charmant.
Mon voisin plaisante.
Eh oui, mon épouse est dépitée de ne plus pouvoir distinguer clairement son visage.
Je rentre chez moi. Vers 6h, je reçois un appel d'Anzu. Elle ramènera sa mère dans 3 minutes. Je descends aussitôt. La voiture arrive. Ayant passé l'après-midi à la plage, tout le monde est bien allé. Ma fille et sa famille vous voient toujours Fujiko. Alors que je bavarde avec notre gendre, Suzuko chante le chapeau pointu. À ma surprise, sa grand-mère l'accompagne d'une voix fluette. Mon gendre est fier.
Ma fille adore cette chanson qu'elle répète constamment.
Anzu me chuchote à l'oreille.
Pour maman, cet air est une nouveauté.
La voiture repart. Fujiko agite la main un long moment. Elle murmure.
Ce sont mes amis.
À poursuivre cette lecture qui vous réservera bien des surprises. Cette émission a été préparée par Anne, Marie-Paul, Guylaine et Dominique. Au cours des plages musicales, vous avez entendu le nocturne numéro 20 de Chopin. Nous remercions Claude Michel pour le montage. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Bergers, 101.5 FM.